le rendez-vous Génération, l'émission pour toutes les générations, conçue et réalisée par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne.
Le projet Génération, c'est avant tout un spectacle, puis une émission radio, et toujours un rendez-vous artistique et d'expression réalisé dans le cadre de l'association Artis. Il est financé par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Conférence des financeurs, en partenariat avec Radio de la Save, bien sûr. Nous invitons nos 60 ans et plus à rejoindre l'aventure de Génération.
Bonjour, je me présente. Je m'appelle Margaret et je suis à la retraite depuis 2 ans maintenant. Comme bien d'autres, mon passage à la retraite n'était pas facile. J'ai aimé travailler, me sentir utile et en plus, je ne suis pas une femme d'intérieur. J'aime beaucoup ma famille et je me suis toujours dévouée à eux. Faire quelque chose pour moi, c'était pas facile. Et donc, un jour, une de mes sœurs me dit que je devrais faire plutôt quelque chose pour moi. Et pourquoi pas du théâtre ? C'était donc vers le mois de juin 2018, je suis allée voir une pièce à Lévignac. Je me suis présentée à les organisatrices qui avaient pour projet de créer un spectacle avec les plus de 60 ans. Ouf, première cap passée. Je suis retournée à une réunion le mois de septembre suivant. Nous étions une bonne dizaine de personnes, hommes et femmes, allant de gens qui avaient dirigé ou même écrit des pièces à une autre personne comme moi qui n'avait pas le moindre expérience, un Josie. On a monté une pièce bien à nous. Chacun ou chacune parmi nous devait proposer quelque chose. On était à la retraite pour la plupart, mais on avait encore des choses à dire et le sentiment que notre expérience de la vie avait son importance dans la société. Une groupe de gens dynamiques, quoi. C'était bien ce qu'il me fallait. Moi, j'avais proposé de dire avec 2 autres les paroles de la chanson « Assez » de Claude Nougaro. Et pour plusieurs raisons. D'abord, cette chanson était très importante pour moi. Ensuite, Nougaro était tout de même de Toulouse. Et aussi, je suis sensible à la préservation de la terre. Enfin, à l'intérêt du sujet par rapport au thème de notre spectacle.
Entendez-le, ce cri immense, ce cri, ce rejet, cette transe. Expatriez votre souffrance, crient les sépulcres et les nids.
Assez, 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 fini.
Isa est parmi nous, mais je voudrais quand même dire que pour moi, Isa savait tirer le mieux de nous et de nous mettre à l'aise. Elle était très professionnelle, on pouvait compter sur elle et moi, j'ai besoin de ça. Chacun devait gérer son trac avant le spectacle, bien sûr, on est toujours seul pour souffrir, mais Isa nous entourait bien. Elle nous faisait faire des exercices de respiration ensemble, et ça, ça crée des liens. C'est vrai que pendant nos présentations dans les villages autour, le même spectacle était perçu différemment. J'ai fait des amis, des connaissances, et j'ai vraiment envie de continuer cette aventure avec eux. Et toi, Christiane, c'était comment pour toi ?
Bonjour, je suis Christiane. Je ne travaille plus depuis à peu près 1 an et demi. Et mon arrivée dans l'aventure Génération n'a pas vraiment suivi le même chemin que celui de Margaret. Je connaissais déjà l'association Artis et surtout je connaissais déjà Isa puisque j'avais fait un peu de théâtre avec elle il y a quelques années. Pas très longtemps, c'est vrai, mais surtout je participe régulièrement au stage de clown qu'elle anime. Quand j'ai eu connaissance du projet Génération, j'avoue que j'étais un petit peu perplexe. Je ne suis pas vraiment attirée par les activités en groupe limitées à une seule génération. Je préfère de loin être avec des personnes de toutes les tranches d'âge. Mais d'un autre côté, l'idée de participer à la création d'un spectacle de toutes pièces, c'était quand même drôlement tentant. Comme Margaret, je suis venue à la première réunion, un petit peu partagée quand même, enfin juste pour voir, on va dire. Et puis quand j'ai vu les personnes qui étaient là et toutes les idées qu'elles amenaient, les propositions, c'était la première réunion et tout le monde avait déjà plein d'idées, je crois qu'il n'y avait plus de questions à se poser. J'ai vu des personnes de plus de 60 ans, mais alors franchement, elles pouvaient en remontrer à des gens beaucoup plus jeunes. On était tous dans la même tranche d'âge, mais on était tous différents. Il y avait des retraités et des gens encore en activité. Faut quand même rappeler qu'à 60 ans, les personnes travaillent encore normalement. Hein. Il y avait des habitués de la scène et des débutants, des artistes peintres, des musiciens, un ancien chauffagiste, un informaticien. Enfin bref, pas deux personnes pareilles. Et tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Et bien à la fin, on était devenu un vrai groupe avec un vrai esprit de groupe. Pour ma part, j'aime bien les séquences visuelles et j'ai proposé un numéro avec un maître des pliants et une séquence de natation synchronisée, comique évidemment, parce qu'on n'avait pas trop d'eau sur la scène. Alors c'est vrai que ça apporte moins de profondeur que certains autres textes, mais ça m'a fait plaisir quand même d'amener un petit peu de légèreté dans l'ensemble du spectacle. Comment Isa a réussi à assembler toutes ces propositions disparates pour en faire un spectacle qui ressemble à la fin à quelque chose, moi j'avoue que j'ai toujours pas compris aujourd'hui. Mais on peut que constater qu'elle a bien réussi. Je pense que ça a été une vraie chance de pouvoir participer à cette expérience. On a pu travailler avec des vrais professionnels. Alors Isa, bien sûr, pour tout ce qui est mise en scène, travail théâtral. Mais on était aussi avec François Dorambus, qui nous a fait travailler le chant et le rythme. Et il y avait du boulot. Et Jeg, qui nous a fait souffrir pendant ses ateliers d'écriture. Et à la fin, le plaisir de partager le résultat avec le public des villages, où on a eu la chance de jouer, et ben, moi je vous le dis, ça ne se mesure pas. Et toi, Josie, alors, comment ça a été pour toi?
Oui, moi, c'est Josie. Je suis à la retraite depuis un an et je continue à travailler chez les personnes âgées. Le fait de me sentir encore utile me rend plus de joie. Ma famille compte beaucoup pour moi et nous faisons en sorte de nous voir souvent. J'aime passer du temps dehors, marcher ou faire du vélo. En prenant de l'âge, les mots nous manquent et nous les cherchons. Donc, quand mon amie Eliane m'a parlé du projet de Génération, c'est pour moi l'occasion de travailler ma mémoire et de penser un peu à moi. Beaucoup d'entre nous avaient de l'expérience. Seules Margaret et moi étions débutantes lorsqu'on a joué le spectacle. J'ai été surprise de ma prestation et j'ai beaucoup aimé rencontrer et partager avec d'autres personnes. J'ai envie de continuer.
Un texte dans ma vie.
Un texte dans ma vie.
C'est avec beaucoup d'émotion que je raconte cette histoire. J'ai acheté ce livre, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, de Philippe Delerme, pour mon papa en 1997. Je suis sûre de la date et du lieu parce qu'il a marqué sur la première page Grenoble 1997. Les histoires courtes de ce livre sont comme je les aime. On a l'impression d'être caché dans un coin, d'être une petite mouche contre le mur, à témoigner en temps réel tout ce qui se passe. Et donc, de fil en aiguille, j'ai cherché à savoir un peu plus sur l'auteur. Chose facile à faire de nos jours, je vous entends dire. Ne vous inquiétez pas, je serai bref. Philippe Delerme est né dans le Val d'Oise, dans l'Île-de-France, en 1950. Fils d'enseignant du Tarn-et-Garonne, quand même, il étudie à la faculté de Nanterre et devient enseignant à son tour. Il se marie et il s'installe en Normandie, encore une région proche de mon cœur. Comme beaucoup d'autres auteurs, à leur début, il se heurte à des refus des éditeurs. Mais la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules le fait connaître du grand public, donc en 1997. Voici un poème en prose de Philippe Delerme qui s'intitule « Le paquet de gâteaux du dimanche matin ». J'espère que cette histoire vous rappellera des souvenirs et que vous saliverez pendant la lecture.
Des gâteaux séparés, bien sûr. Une religieuse au café. Un Paris-Brest. Deux tartes aux fraises. Un millefeuille. À part pour un ou deux, on sait déjà à qui chacun est destiné. Mais quel sera celui en supplément pour les gourmands ? On égrène les noms sans hâte. De l'autre côté du comptoir, la vendeuse. La pince à gâteau à la main plonge avec soumission vers vos désirs. Elle ne manifeste même pas d'impatience quand elle doit changer de carton. Le millefeuille ne tient pas. C'est important ce carton plat, carré, aux bords arrondis, relevés. Il va constituer le socle solide d'un édifice fragile, au destin menacé.
Ce sera tout ?
Alors la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt nouée d'un ruban brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous. Mais, dès la porte du magasin franchie, on le saisit par la ficelle et on l'écarte un peu du corps. C'est ainsi. Les gâteaux du dimanche sont à portée, comme on tient un pendule. Sourcier des rites minuscules, on avance sans arrogance, ni fausse modestie. Cette espèce de componction de sérieux de roi mage, n'est-ce pas ridicule ? Mais non ! Si les trottoirs dominicaux ont goût de flânerie, la pyramide suspendue y est pour quelque chose. Autant que ça et là, quelques poireaux dépassant d'un cabas. Paquet de gâteaux à la main, on a la silhouette du professeur Tournesol, celle qu'il faut saluer, l'effervescence d'après-messe et les bouffées de PMU, de café, de tabac. Petit dimanche de famille, petit dimanche d'autrefois, petit dimanche d'aujourd'hui, le temps balance en ostensoir au bout d'une ficelle brune. Un peu de crème pâtissière a fait juste une tache en haut de la religieuse au café.
Merci Philippe Delerme pour cette belle histoire. Et merci pour la lecture, Claude et José.
Après les gâteaux, la santé.
Moi, j'aime bien les choses utiles. Oh, José, mon corps est malade, toi seul peux me guérir. Je vais vous parler des oméga 3.
Mais moi aussi, c'est utile, José. Ça fait saliver quand même, les gâteaux.
Oui, mais c'est pas bon pour la santé.
Ah, mais c'est bon pour le moral.
Alors, les scientifiques ont commencé à s'intéresser aux oméga-3 lorsqu'ils ont découvert que les Inuits, les Esquimaux, présentaient relativement peu de maladies cardiovasculaires, alors même que leur régime alimentaire est riche en graisse, surtout sous forme d'huile de poisson, de phoque et de baleine. Ces aliments sont riches en acides gras oméga-3, d'où l'intérêt des médecins pour ce type de graisse. Les aliments les plus riches en oméga-3 sont les poissons gras, saumon, maquereau, thon frais et sardines fraîches ou en conserve. Essayez d'en consommer au moins deux fois par semaine. À suivre la prochaine fois, vous en saurez plus.
Merci Josie.
Donc, c'est quoi les oméga 3 ?
Alors, les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés qui sont très riches donc pour la santé. Vous en saurez plus. la prochaine fois. Voilà. C'était la rubrique Josie pour la santé.
La fille incendiaire que l'on dit légère, connue sous le nom de Laura, a mis dans mon âme le feu et la flamme. Le pire de l'histoire, c'est qu'elle ne l'éteint pas. Oh Laura, mon cœur est malade, toi seul peux me guérir.
De la
musique chronique
Génération.
Nous vous racontons
la petite histoire
cachée derrière
une grande chanson.
Bonjour à tous et bienvenue pour la première édition de la musique chronique Génération. Je vous propose aujourd'hui de repartir dans le passé de quelques dizaines d'années et même, comme vous allez le voir, de quelques centaines d'années. 1964. 16 octobre 1964. Nous sommes à Paris, à l'Olympia, et Jacques Brel va chanter pour la première fois ce qui deviendra un de ses plus grands succès.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts.
Oui, c'est la première interprétation d'Amsterdam. Jacques Brel et ses musiciens l'ont composé directement durant la tournée, comme ils le font habituellement pour toutes les chansons. Mais après avoir écrit cette chanson, Jacques Brel n'en est pas vraiment content. Et il va décider de la mettre en chanson d'ouverture de son récital. La chanson d'ouverture, c'est celle qu'on appelle la chanson sacrifiée. Parce qu'au moment du lever de rideau, les techniciens sont encore en train de faire les derniers réglages et le public est plus absorbé par les artistes qui rentrent en scène et ils ne les écoutent pas vraiment.
Mais juste la veille de la première, un concert de rodage est fait avec un public réduit à Versailles. Et là, Jacques Brel se rend compte que le public est vraiment conquis par cette chanson et il va la déplacer en troisième position du récital. Et effectivement, ce fameux 16 octobre 1964, Amsterdam est ovationné interminablement dans la salle de l'Olympia, mais elle est aussi extrêmement appréciée par les millions d'auditeurs d'Europe 1 qui retransmettaient le concert en entier. L'un des plus grands succès de Jacques Brel. Elle ne sera jamais enregistrée en studio. Et c'est bien cette version live de 1964 que vous connaissez tous. Elle va être adaptée et reprise de nombreuses fois, et elle va même être traduite en anglais, comme par exemple dans cette version de David Bowie.
That he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree.
Mais d'où la mélodie de cette chanson? Une invention pure de Jacques Brel et de ses musiciens? Eh bien, pas du tout. Reculons encore de quelques siècles et nous allons nous placer au XVIe siècle en Irlande. Là-bas, on y fredonne les couplets de Greensleeves, une chanson en hommage à la dame aux manches vertes. La légende raconte qu'elle aurait été écrite par Henri VIII en l'honneur d'Anne Boleyn. Alors bien sûr, les musiques n'étaient pas écrites à l'époque, donc elles se sont transmises au fil des siècles de musiciens en musicien. Pour avoir une idée approximative de la version d'origine, je vous propose d'écouter un extrait de sa reprise par Jordi Savall, le grand spécialiste des musiques traditionnelles. Ici, il vous propose une version à la viole de gamba. Le morceau va traverser les siècles et inspirer de nombreux artistes qui vont l'utiliser de manière très variée et même très très variée. Voyons quelques exemples. 1968.
The canyons high and the valleys low. Echo, how can you stay away?
Et oui, il s'agit bien d'Elvis Presley. En 2003, Jethro Tull met sa flûte traversière au service de la mélodie. Surprenante que j'ai trouvée, une musique de film d'animation japonais chantée par Minase Inori.
Thank you.
tout ça est bien contemporain. Mais bien avant Elvis Presley, Jethro Tull ou même notre charmante petite japonaise, il faut savoir que Beethoven en a fait une variation en 1816 dans son recueil d'Irish Songs. Je vous laisse écouter, vous allez voir.
Birchin form as agiles will decay, and pleasures of transport glide swiftly away. The song of the dance and the violence affair shall vanish as sorrow and shield us from care. Away with your proverbs, your morals and rules, your proctors and doctors and pedants and schools. Let's seize the bright moments while yet in our prime, and fast as a forelock catch on for the time.
Impressionnant, non? Parions que Brel ou un de ses musiciens avait la connaissance de cette œuvre. La musique chronique est terminée et je vous laisse avec cette sublime chanson de Jacques Brel et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Billet d'humeur.
La lettre à Monsieur K.
Monsieur K habite sur la planète K23B, située dans la constellation du Lion. Nul ne se souvient comment nous avons eu connaissance de l'existence de Monsieur K. Mais étant extérieur à notre monde, il nous a semblé intéressant de lui faire découvrir notre société et de recueillir ses réactions face à nos petits et grands travers. Quand on vit dans la constellation du Lion, on a envie de rugir de plaisir à la découverte de nouvelles cultures, non ?
Nous avons donc entamé une correspondance régulière avec Monsieur K. Cher Monsieur K, la semaine dernière, j'ai lu un article qui m'a effaré et même effrayé. Savez-vous que d'après un sondage, 16% des Américains penseraient que la Terre n'est pas sphérique? Il y aurait même 9% des Français qui estimeraient qu'effectivement ce serait possible. Dans un pays où l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Et comment cette joyeuse communauté imagine-t-elle donc notre monde?
Eh bien, ce serait un disque plat, une sorte de pizza, entouré d'un énorme mur de glace qui nous éviterait de tomber en arrivant au bout.
C'est quand même bien réfléchi. Ils ont même pensé aux garde-fous.
Et cette terre plate serait surplombée d'un dôme, une sorte de cloche à fromage. À l'intérieur de cette gigantesque boule à neige, la Lune et un mini-soleil de quelques centaines de kilomètres de diamètre tournerait au-dessus de nos têtes.
Galilée doit en pleurer dans sa tombe, et il n'est sûrement pas le seul. Rassurez-nous, Monsieur K, votre planète est bien sphérique. Vous allez me demander quels sont les arguments avancés pour prouver cette théorie de Terre plate comme une pièce de monnaie. Bonne question, Monsieur K.
Tout d'abord, nous voyons la ligne d'horizon totalement plate.
C'est vrai, nous la voyons ainsi.
Ensuite, si la Terre était vraiment en rotation, nous nous envolerions.
C'est vrai que C'est vrai que nous ne nous envolons pas, bien que ce serait peut-être très drôle. Ou pas. Nous proposons aux terre-platistes de se replonger dans leurs cours de physique et de revoir par exemple la loi universelle de la gravitation. Elle explique calcul à l'appui pourquoi nous ne nous envolons pas. Les calculs de courbure d'un arc seraient bien intéressants à réviser et à appliquer à la dimension énorme de la Terre.
Et argument ultime, ils n'ont pas l'impression que la Terre est courbée. CQFD.
Alors là, nous ne savons plus que répondre. Nous avons pourtant des photos de la Terre vue de l'espace. Savez-vous que notre Terre est très belle? Splendide boule auréolée de bleu, où les continents peignent leurs dégradés de marron et de vert.
Photo truquée, diront les terre-platistes.
Je leur répondrai, mais qu'on me présente l'artiste qui a pu imaginer une telle beauté. Je veux voir ses autres œuvres.
Photoshop, trucage, me répondrait-on.
Ah, Thomas Pesquet et ses photos depuis la station spatiale feraient donc partie du complot lui aussi.
Car oui, d'après les platistes, il y aurait complot.
Je suis sûre que vous vous demandez comment de telles théories ont pu se répandre, telle une épidémie maligne. Créée dès les années 50, la Flat Earth Society, Société de la Terre plate en français, a vu le nombre d'adeptes qui explose depuis quelque temps. Internet joue un grand rôle dans l'expansion des théories complotistes, comme celle des platistes. Ah, effectivement, Internet permet à chacun de poster et de consulter les théories, les vidéos les plus folles. La mise en place d'algorithmes qui orientent nos choix accélère la propagation de ces théories. Vous regardez une vidéo sur un sujet et on vous propose d'autres vidéos, articles, blogs sur le même sujet. Et ce qui vous semble au départ comme une grosse imbécilité finit par sembler logique. Puisqu'on en parle tellement sur le net. Voyez-vous, Monsieur K, je suis bien peinée de voir que la multiplication de nos moyens d'information
entraîne un retour de l'obscurantisme. Avez-vous aussi des théories du complot chez vous? Nous aimerions beaucoup savoir. Sachez cependant que nous n'attendons pas de réponse de votre part, étant donné que nous n'avons toujours pas trouvé comment vous faire parvenir nos missives. Mais nous y travaillons ardemment. Bien à vous. Et pour remettre tout à plat, une seule émission, le rendez-vous Génération.
Et voici une brève.
Se consoler du départ d'Ulysse, se dit d'une femme qui ne reste pas à attendre sagement ou vainement son héros, mais qui le remplace à peine à t'y tourner le dos. Au contraire de Pénélope qui attendit Ulysse pendant 20 ans. Tout, terminé.
Tout l'horizon était coloré de rouge, de jaune, d'orange. Tout ça, ces couleurs avaient explosé. Tout se reflétait dans l'eau. Les nuages étaient devenus roses. C'était une beauté.
Et ça t'a fait quoi?
Ah, ça, je suis restée bouche bée, quoi. C'était... Je sais pas. Non, c'était magique. C'était une splendeur. J'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu une...
C'était quoi tes sentiments?
Que la nature pouvait nous donner des spectacles resplendissants. C'était... Voilà, c'est vrai, t'en restes sans voix, quoi. Voilà.
Et après, t'as fait quoi?
Et puis après, j'ai voulu montrer ce... J'ai voulu le montrer à tout le monde. J'ai voulu faire profiter de cette beauté à tout le monde, quoi. J'ai voulu, voilà.
Et là, t'aimerais bien en faire profiter les auditeurs de Radio de la Salle aussi.
Tout à fait. Tout à fait.
Dans un premier temps, j'avais choisi de partager avec vous Assez de Claude Nougaro. C'était après tout la chanson que j'avais choisie pour le spectacle de Génération. Mais j'ai changé d'avis. Aujourd'hui, toujours du Nougaro, la chanson de mon choix s'intitule Armstrong. Pour la petite histoire, dans les années 50, Louis Armstrong interprète le fameux gospel Go Down Moses, chanson moins connue en France, et dans les années 60, tout comme la France, les États-Unis vont mal. Le président Kennedy est assassiné. Ensuite, Johnson, son remplaçant, envoie les troupes au Vietnam. Et Claude Nougaro adopte les paroles du gospel en français pour créer sa chanson Armstrong, qui parle de la discrimination raciale de, entre autres, les Afro-Américains comme Louis Armstrong. À mon avis, toutes les chansons de Claude Nougaro sont belles, mais j'aime particulièrement celle-ci, car dans ce cas précis, Nougaro nous démontre que c'est l'âme qui compte au-dessus de tout.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut, les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire. On voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge, sans, sans, sans trêve ni repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau.
Yeah. Et voici une brève.
Margaret, mais pourquoi dit-on que mettre le pain à l'envers porte malheur ?
Au Moyen-Âge, le jour des exécutions publiques, le boulanger réservait un pain pour le bourreau. Il posait ce pain à l'envers pour être sûr de ne pas le vendre à un autre. Tout le monde savait que ce pain était celui du bourreau et personne n'y touchait. Ainsi, le bourreau avait toujours son pain, quelle que soit l'heure des exécutions. Les gens disaient que le pain retourné attirait le bourreau chez soi et depuis, cela est associé au malheur. Vous devez savoir quand même.
C'était le rendez-vous Génération sur Radio de la Save avec aujourd'hui
Margaret,
Josie,
Claude,
Jeg,
Isa,
Christiane
et Marie-France.
Au mois prochain pour une nouvelle émission.
Avec toute l'équipe de Génération.
Vous avez 60 ans et plus, vous résidez en Haute-Garonne et vous avez envie de tenter l'aventure radiophonique Génération. Contactez-nous à Radio de la Save au 05 61 85 48 10 ou par mail contact@radiodelasave.com.